Le CIMI, du 9 au 11 décembre 2025, à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Salvia Développement, Solare IT, Procivis, INLI, Axéo et IDPRO sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue sur Radio Imo, on est ravis de vous retrouver en direct du CIMI édition 2025 à la Porte de Versailles, une première. Et on vous fait vivre cet événement pendant 3 jours. Je suis évidemment avec Sylvain Lévy-Valency, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Comment allez-vous ?
Je vais bien.
Vous êtes en forme ? Belle journée. Il y a du monde aujourd'hui, il y a beaucoup de
extraordinaire.
Monde.
Extraordinaire, un très bel emplacement.
Un bel emplacement, on est ravis d'être là. On vous fait vivre justement ce CIMI. On a le plaisir de recevoir Annick Lemeur. Bonjour Madame la députée.
Bonjour Bérénice.
Députée du Finistère, groupe Renaissance. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous portez depuis plusieurs mois un renforcement très net de l'encadrement des loyers qui fait parler de lui. C'est vrai que ça fait pas mal de bruit dans les médias. Donc vous avez remis un rapport le 24 septembre avec Inaki Ishaniz pour pérenniser et durcir le dispositif au-delà de 2026, parce que je rappelle qu'il est censé s'arrêter, ce dispositif. Il est en place dans certaines villes et il est censé s'arrêter en 2026. On est en pleine crise du logement, les loyers explosent par endroits, l'offre locative se contracte et donc vous proposez de pousser cet encadrement. Un petit mot peut-être sur justement votre vision des choses.
Alors moi je vais être franche. Quand je suis allée faire ce rapport, c'est parce que je n'étais pas convaincue réellement de la notion d'encadrement des loyers. En Bretagne, en fait...
Nous non plus.
En Bretagne, en fait, il n'y a pas d'encadrement des loyers. Donc, du coup, je ne connaissais pas forcément le dispositif réellement dans le fonctionnement concret du quotidien. Donc, l'objectif était déjà d'aller voir comment ça fonctionnait, si les gens étaient satisfaits. Parce que c'est une expérimentation. Donc, on avait proposé de reconduire, notamment dans la loi Elan, qui était donc une proposition venant de notre groupe. Donc je voulais aller voir réellement quels étaient les fruits, qu'est-ce que ça avait donné et pourquoi en fait il y avait beaucoup de réticence de la part des gens et à la fois beaucoup d'appétence de la part des communes. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, les communes qui l'ont mis en place sont plutôt très satisfaites en fait de l'encadrement des loyers. Donc c'était l'occasion en fait d'explorer un petit peu le pourquoi du comment, de voir ce qui pouvait être amélioré dans l'outil et pourquoi pas, parce que il faudra bien sortir un jour de cette notion d'expérimentation. Bah comment en sortir et que proposer derrière.
Et alors, quand vous dites « je suis allée voir », vous êtes allée voir qui, quoi, comment ?
Alors, on a fait énormément d'auditions, effectivement, des acteurs de l'immobilier, mais aussi des collectivités qui l'avaient mis en place pour faire un compte-rendu, un rapport de leur satisfaction ou non-satisfaction vis-à-vis de l'encadrement des loyers. Mais il y avait aussi les communes qui ne l'avaient pas mis en place, mais qui avaient la possibilité de le faire.
Bien sûr.
Il faut savoir qu'on a des communes, et de droite et de gauche, qui mettent en place l'encadrement des loyers, et certaines qui voudraient le faire, et quels étaient les écueils, en fait, pour le mettre en place. C'était intéressant. On avait aussi des associations de locataires. Parce qu'il ne faut pas oublier les locataires dans tout ça. Souvent, ça sert les locataires.
Alors, c'est pour les locataires, il faut le dire.
C'est surtout pour le marché. C'est-à-dire qu'en soi, quand il y avait beaucoup de rareté dans certains territoires, la rareté génère effectivement une augmentation du prix.
Donc,
du coup, alors, il n'y a pas que la rareté. Il y a aussi le prix du foncier acheté par les propriétaires qui augmente. Il y a des crédits qui augmentent. Donc forcément, il faut penser aussi à ça. Les propriétaires ont un crédit derrière.
Ouais. Si on veut des locataires, il faut bien qu'il y ait un peu de propriétaires.
Ouais,
qui loue, parce que le problème qu'il y a dans votre rapport, et il y a un vrai sujet, malgré tout l'affection que je vous porte et le respect que je vous porte, vous êtes complètement à côté de la plaque.
Je veux bien entendre pourquoi.
La vitalité démocratique nous permet de débattre et de nous apprécier, et tout le monde sait qu'on s'apprécie tous les deux, donc il n'y a pas de doute là-dessus.
On peut ne pas être d'accord.
Voilà, absolument, ce qui ne nous empêche pas de nous aimer, et je vous aime beaucoup. Voilà. Alors, la question, elle est la suivante, c'est que, je reprends les chiffres, si vous permettez, je reprends les chiffres. Le marché de l'offre locative d'une parc privé s'est rétréci de 55%. Si je prends les 20 premières villes dans lesquelles l'idée de l'encadrement des loyers, qui n'est pas con du tout sur le papier, c'est même plutôt une bonne idée de gauche, de dire on va faire des plafonner les loyers ou avoir un encadrement relatif des loyers avec une certaine liberté, puisque on sait qu'on peut avoir une
le complément de loyer
liberté sur
d'ailleurs
les
c'est totalement
de loyer,
fou,
sauf que il y a une chose que les politiques ont oublié, c'est que structurellement le marché il est libre, si on ne planifie pas en amont, vous voyez ce que je veux dire, si on ne planifie pas la politique du logement en amont, on ne pourra pas avoir un effet d'encadrement des loyers positif, puisque de toute façon, nous n'éviterons pas, à cause de la rétractation de l'offre, la spéculation sur les loyers. Entendez-moi bien, la spéculation sur les loyers et les situations désespérantes. Conséquence, je vous donne la conséquence, le nombre d'appartements mis en location par des propriétaires s'est réduit de moitié pour deux causes principales, un désinvestissement puisqu'il n'y a quasiment pas de rentabilité, ou nul, et deux, une vacance locative structurelle jamais connue, ça peut monter jusqu'à 13% hein, dans certaines grandes communes, parce qu'on a des propriétaires, vous vous rendez compte, qui préfèrent, pour ne pas s'emmerder, garder vide leur appartement pour ne pas les louer.
Oui, mais ça, vous l'avez dans toutes les villes, et pas uniquement dans les villes qui avaient donc pour, ça, des loyers.
Non, mais Adaïque, pourquoi les politiques vont vers cette cible à poliment iconique, presque apostolique du locataire, et mettre de côté les propriétaires qui sont la variable d'ajustement de toutes les politiques fiscales, indélocalisables parce qu'un bâtiment, ça ne délocalise pas. Bref, à un moment donné, les propriétaires en ont marre, ils se disent « je désinvestis ». C'est en tout cas la position qu'avec Véronique, nous avons.
Ils désinvestissent pour plein de raisons, celles que vous avez évoquées, aussi parce qu'il y a un manque de confiance aussi dans le rapport locatif, parce qu'effectivement, on a des risques d'impayés qui sont de plus en plus grands.
Mais l'encadrement, ça ne donnera pas plus de logements.
Hier, j'ai interrogé différents réseaux immobiliers, et c'est vrai que les investisseurs ont déserté.
Ça fait des années.
Il y a plus de... Non, mais ça s'est vraiment intensifié ces deux dernières années. Ça, c'est les réseaux qui le constatent. Et dans les deux premières questions que les investisseurs posent avant de faire un achat, un investissement locatif, c'est est-ce qu'il y a l'encadrement des loyers dans cette ville ? S'il y a l'encadrement, j'y vais pas, je prends la ville à côté où il n'y en a pas.
Mais l'encadrement, il se base quand même sur le prix du marché. Par contre, il faut que la définition soit meilleure.
Il y a eu un sujet qui a été nommé par l'UNPI, qui a été pointé par l'UNPI. Ça a été vraiment démontré au niveau des chiffres. Factuellement, l'encadrement des loyers est mal calculé. Il est trop bas.
Alors justement,
mais il est trop bas. Je suis d'accord.
Quel est votre avis ?
Il y a un sujet là-dessus. Voilà. J'ai fait un amendement là-dessus. Parce que pour moi, il est trop bas parce qu'il intègre notamment les loyers qui sont conventionnés.
Mais dites-nous pourquoi vous y croyez.
Il faudrait y retirer. J'y crois si on a réellement les données réelles du prix du marché.
Oui, mais ça,
mais combien même vous les auriez ?
Pourquoi on les a pas ?
Parce qu'on nous les transmet pas suffisamment.
C'est pas réalisable pour l'instant.
Parce que c'est l'objet en fait de la proposition de loi. C'est justement avoir plus de données et avoir des données réelles. C'est-à-dire qu'actuellement, ils intègrent les données des biens conventionnés type Pinel ou autre, qui sont déjà des prix encadrés.
Oui, mais le problème des lois, c'est que les lois, elles sont votées sans aucun impact. C'est comme ça à chaque fois. Il n'y a jamais vraiment d'études, jamais vraiment de chiffres réels.
Il y a une étude d'impact qui est en cours qu'on aurait dû avoir avant l'examen de cette proposition.
Qu'on aurait dû.
Eh oui, moi j'aurais aimé, c'est pas moi qui fais l'étude d'impact. Hein. Donc les économistes n'ont pas rendu leur rapport.
J'aimerais juste rappeler une chose. Sur le papier, je trouvais ça l'idée très bonne. J'étais plutôt bourrée initialement, parce que c'est vrai qu'il faut protéger les locataires. Il faut protéger les locataires de loyers exorbitants. Quand on regarde à Paris, il y a certains propriétaires qui ont exagéré, qui exagèrent plus maintenant parce qu'il y a cet encadrement. En revanche, il y a eu un rapport de la Commission européenne qui a pointé du droit, en fait, qui a montré que la crise du logement était européenne, concerne tous les pays d'Europe. Et elle a identifié trois causes. Et je vous conseille de lire cette étude, je ne sais pas si vous l'avez lue, elle est très bien faite. Les trois causes de la crise du logement en Europe, c'est le télétravail, c'est les logements saisonniers, enfin les logements touristiques, courte durée, et l'encadrement des loyers. Parce que ça fait fuir les investisseurs. C'est vraiment factuel. On a un marché qui ne peut pas grossir. Par exemple, à Paris, ça ne peut pas s'étendre. C'est un marché qui est fixe. Si vous encadrez les loyers, vous forcez les investisseurs à se retirer. Ils pourront pas. Enfin, vous comprenez, l'offre se réduit et c'est ce qu'on voit à Paris. Oui. Le nombre de personnes à la rue.
On va vous laisser vous exprimer parce que je voudrais juste compléter, parce que moi je partage complètement l'idée de Bérénice. C'est juste de dire combien même vous seriez au prix du marché, Anaïg, que vous auriez les données.
Les prix du marché plus 20%.
Quoi. Oui, mais franchement.
Plus complément de loyer. On n'est pas non plus dans du logement social.
Mais quel intérêt de le faire ? Ça n'a aucun intérêt de le faire, même dans le vocable. Parce que ça ne fonctionne pas
dans la pratique. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est en fait, au niveau fiscalité, c'est beaucoup trop lourd derrière aussi sur le logement. Je veux dire, c'est pas uniquement l'encadrement du loyer, c'est tout le dispositif lié au logement qui est complètement peu rentable actuellement et qui fait que personne n'investit. C'est pas qu'une question d'encadrement de loyer.
Non, mais je suis d'accord, oui. Voilà. Mais c'est pas ce qu'on dit. On dit que l'encadrement du loyer est un des facteurs du désinvestissement. Fait, ça fait très peur. On n'a pas dit que c'est la motivation principale.
Ça fait très peur. Je le dis clairement. Déjà, le terme fait peur. Je le dis clairement.
Mais tous les propriétaires, même les petits propriétaires.
Non, mais le terme fait peur parce que quand j'en discute avec mes collègues, ils pensent qu'encadrement des loyers, ça veut dire logement à tarif social. Exact. Ce qui n'est pas le cas.
Ah, oui.
Je veux dire, ce n'est pas le cas.
Oui.
Je le redis plusieurs fois parce que non, ce n'est pas le cas. C'est un prix du marché, plus 20%, plus
pas actuellement. À Paris, ce n'est pas le prix du marché.
Ah bah si, normalement, c'est le prix du marché. Sauf que les données, je suis d'accord, ne sont pas justes.
Vous avez vu le prix d'acheter un appartement, un petit appartement à Paris, vous avez vu les prix?
Ah oui, les prix, ils ont explosé.
Vous êtes
ben,
un
on ne va
petit
pas encadrer les prix non plus
vous êtes un
de
petit...
vente.
Oui, mais c'est ça le problème. Les prix de vente ne sont pas encadrés. En revanche, les loyers sont encadrés.
Ne proposez pas ça aux derniers.
Non, mais vous comprenez, je suis petit propriétaire, j'achète un petit appartement, 250 000 euros, je le mets en location, je ne peux pas louer plus de 400 euros, ça ne marche pas. Le prêt à la banque, il est de 1 000 euros.
Alors, comment si je trouve un logement à 400 euros à Paris, vous nous le dites rapidement parce que...
L'encadrement des loyers, c'est ça. Nous, on a des collaborateurs qui justement, alors c'est vrai que pour ça c'est bien, ils ont fait marcher ce dispositif, le propriétaire a baissé le loyer, sauf que le propriétaire, bon là pour le coup il n'avait pas de crédit derrière, mais les propriétaires qui ont des crédits derrière ils font comment?
Je comprends la difficulté, en plus la charge est très lourde derrière, au-delà même des crédits qui ont augmenté, il y a d'autres dispositifs, parce qu'on doit avoir des garanties, on doit avoir d'autres, maintenant on ne peut plus avoir un logement de façon simple et aisée. Et que derrière, on a aussi des contraintes fiscales qui sont de plus en plus lourdes. Certains voulaient les alourdir encore beaucoup plus. Voilà, on a su résister,
Prenons notre ville. On va prendre en dehors de Paris, parce que Paris, on ne peut plus se loger. Bérénice a raison, on ne peut plus se loger. Il n'y a pas d'offre à Paris. Hein. Regardez, sur les moteurs de recherche, il n'y a pas d'offre. On peut avoir ce qu'on veut en garantie des loyers, ça ne fonctionne pas. À cause du désinvestissement des petits propriétaires qui en ont marre et qui ont arrêté parce qu'ils ne veulent plus y aller. C'est 12% de vacances locatives. Hein. Je dis ça comme ça, parce que c'est aussi un phénomène important. Je vais prendre Lyon. Je prends une ville que vous connaissez bien, c'est Rennes, c'est Nantes. Des villes qui sont des villes importantes sur les 20 premières métropoles françaises. Même combat. Et on voit que l'étude d'impact, quand bien même aurait-elle eu lieu, n'aurait eu aucun effet en réalité. Puisque structurellement, à la racine, le propriétaire n'ira pas forcément là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il a vu sa taxe foncière grimper de 42 à 52%. Il a vu grimper sa fiscalité dans laquelle on lui a ôté toute marge de manœuvre d'investissement. Au même moment, il a pris 250 points de base d'augmentation sur les taux d'intérêt. Quand on sait que les deux tiers des Français, quasiment, hein, 62% des Français sont logés dans le parc privé, alors qu'ils seraient éligibles en termes de ressources au logement social, je vous pose la question, et on se connaît bien tous les deux, on voit bien que ça ne marche pas dans le vocable. Ça ne peut pas marcher.
Là, on est dans une ère où il faut absolument rassurer les propriétaires.
Oui,
vous
mais
êtes
là,
d'accord.
Là, si, bah, là, je suis tout à fait d'accord, effectivement. Et c'est pour ça qu'on a mis un statut de bailleur qui doit être retravaillé et développé pour justement...
Qui n'est pas terrible, au passage, le statut
de bailleur. C'est mieux que rien, au bout d'un moment.
Non, ce n'était pas mieux que rien. Dans la première version de l'Assemblée nationale, c'était pas mieux que rien. C'était plus rentable pour un propriétaire de ne pas utiliser le statut. On a fait des calculs que de l'utiliser.
Oui.
Que de rester sans rien faire et pas vendre
locataire. Oui, on a fait.
On a un calcul.
On avait 1,8 de renta quand on faisait rien et 1,6 quand on prenait
le... Où votre renta si vous faisiez rien?
Justement, parce que c'est plafonné.
On a fait une simulation.
On a fait une simulation sur
un T2 classique. Prix moyen 300 000 euros. Alors, à moins que notre calcul soit faux.
Non, ce n'est pas faux, parce que BFM Business fait les mêmes. Sans
les loyers, sans l'impact du statut, on a 1,8% de rentabilité nette. Les mêmes constantes appliquées avec le statut, hein, qui est à 3,5, je crois, Bérénice, à 3,5 d'amortissement, on était à 1,6. Cherchez l'erreur.
Bon, au-delà de ça, j'ai une question à vous poser.
Oui. Mais vous voyez que ça colle pas, tout ça.
J'attends de voir, effectivement.
Posez-nous la question, on adore ça.
la question, demain on arrête l'encadrement des loyers, qu'est-ce qui va se passer?
C'est génial.
Non, mais ça va être génial. Les prix vont augmenter, ça va être du pala, allez, on y va, et on y va tous. Ça s'est fait ailleurs, donc ça a augmenté énormément.
Anaïs,
dès lors qu'on n'a pas suffisamment d'offres...
Regardez Asnières à côté de Paris, Asnières-sur-Seine, il n'y a pas d'encadrement des loyers. Les loyers ne sont pas exorbitants.
Oui, mais ça, on peut en citer plein, non, des villes.
Ah oui, mais c'est
exorbitant pour l'instant.
Mais les villes qui sont encadrées actuellement.
Annaïe-Glomer.
Si on libère Paris, il n'y a plus d'encadrement demain à Paris.
Mais il y aura peut-être plus d'investisseurs.
Non, pardonnez-moi.
Moi, je pense qu'il y aura plus de
locatifs. Annaïe-Glomer.
Mais du coup, les loyers vont augmenter.
Annaïe-Glomer, vous ne croyez pas ce que vous dites, là, c'est pas possible.
Bah pourquoi ?
Mais non, mais vous ne pouvez pas croire ce que vous dites.
Vous pensez que les gens ne veulent pas prendre. Parce que vous me dites, oui, ils veulent pas.
Vous ne pouvez pas dire. Pardonnez-moi, vous ne pouvez pas dire dans la même phrase, si on arrête l'encadrement des loyers, ça va exploser. Ça a déjà explosé.
Ah non, dans les loyers que vous encadrez, qui sont encadrés, vous me dites qu'ils sont trop bas.
Attendez,
c'est pas bon non plus.
Non, mais regardez les prix du loyer aujourd'hui à Paris, pratiqués, même dans certains points. On voit bien que la moyenne. Alors, je vais vous dire, avec l'encadrement des loyers, d'accord ? Avec l'application des prix du marché.
Dans donc l'encadrement des loyers donne des loyers
dans
trop.
Dans certains quartiers de Paris, on est, vous savez à combien ? Entre 28 et 42 euros du mètre carré annuel, mensuel. 28, ouais. Si on prend l'encadrement des loyers, c'est déjà très élevé. Je vais vous dire, on n'aurait pas mis l'encadrement des loyers, on serait au même tarif. Je vous démontre qu'on serait au même tarif. Par contre, l'impact en termes de communication, et Bérénice a raison.
Ah, mais ça, elle a raison.
Si on envoie
la communication, je suis d'accord.
Si on envoie le message aux propriétaires en disant il n'y a plus d'encadrement des loyers, je vais vous dire, non seulement les prix de la location ne seront pas plus élevés, mais je peux vous parier que ça va baisser. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est l'offre et la demande.
Ah, mais s'il y a plus
d'offres, effectivement, vous libérez l'offre locative, si on dit aux propriétaires, vous avez une exo, par exemple, de 20% de la taxe foncière. Pas beaucoup, hein, 20%. Mais, et vous baissez de 2,50€ le prix moyen du mètre carré mensuel. Pas beaucoup non plus. Vous savez quel est l'impact ? C'est 2% de rentabilité supplémentaire.
Mais je suis d'accord que la solution, c'est d'augmenter l'offre.
Et là, le message que
ça, on est tout à fait d'accord. Le marché, bah, effectivement, c'est lié à la pression fiscale notamment.
Et là, le message que vous passez aux propriétaires, je trouve, n'est pas forcément le bon. Ça veut dire que vous prétendez que si on arrête l'encadrement des loyers, forcément, les propriétaires sont les méchants propriétaires qui vont...
J'ai pas dit ça,
c'est ce qu'on entend derrière. Ils vont augmenter les loyers, on ne peut pas leur faire confiance.
Ça s'est vu ailleurs.
Mais oui, mais c'est le message qu'on comprend.
Vous l'avez pas dit, ça c'est vrai.
Non, mais
je ne l'ai pas dit,
mais moi c'est ce que je comprends.
Je défends aussi bien les propriétaires que les locataires.
Moi, c'est ce que je comprends, c'est que si on est propriétaire et que vous nous dites, ouais, si on enlève l'encadrement des loyers, vous allez en profiter. C'était ça le message. Si on va en profiter, on va augmenter les loyers.
C'est un constat qui s'est vu ailleurs.
Ça veut dire que les propriétaires sont vous voyez ce que je veux dire, je trouve que ça envoie une
vision
manichéenne.
Ce que vous dites aussi, c'est que les propriétaires ne y vont pas parce qu'ils sont contraints par l'encadrement des loyers. Donc si on libère, effectivement...
Mais il y a une différence entre l'encadrement des loyers qui est très bas et le juste prix qui va avec le crédit qu'il y a derrière.
Le très bas, je ne suis pas complètement d'accord toujours. Hein. Donc, moi, je
comparé au prix du foncier à Paris, si, c'est très bas. Les loyers sont très bas comparé au prix du foncier.
Comparé au prix du foncier.
C'est donc,
des biens.
C'est très bas.
Ouais. Prenons simplement les chiffres. Hein. On les a, les chiffres. Là. On a les chiffres moyens d'acquisition. On a les prix en mètre carré. On a la répartition des typologies de clientèle sur, par exemple, le bassin parisien. Mais je prends juste la région lyonnaise qui est impactée, Nice. Je prends aussi la région de Marseille qui subit les mêmes impacts. On voit que ça n'a pas d'effet. Le seul, et d'ailleurs la Cour des comptes l'a pointé très clairement, le seul effet bénéfique sur le flux des loyers ou la qualité de la rentabilité des loyers, c'est la libération fiscale, un allègement fiscal, un assouplissement de la contrainte normative et réglementaire. C'est depuis 1964, depuis les premières lois, même sur la loi de 48 sur les loyers, vous vous rappelez, dont a bénéficié beaucoup de gens, on voit bien que dès qu'il y a un impact d'allègement ou d'assouplissement, l'effet retour sur le marché, c'est plus d'offres. Et l'offre fait réduire le prix des loyers. N'importe quel économiste...
D'accord, c'est un constat économique qui est réel.
Pourquoi cette idée nauséabonde des politiques, dans un contexte où on a besoin d'espoir et de rassurance et de messages de stabilité...
Surtout qu'on a besoin de construire plus de logements.
De dire ça à l'heure où on a 52% d'augmentation de la taxe foncière. Vous le savez, ça. C'est une galère absolue. Donc là, actuellement, on a 2 700 000 foyers en attente de logement.
On est passé à 3 millions, là.
On est passé à 3 millions. On a 4 millions de personnes mal logées.
On sera à 3 millions à la fin de l'année.
Mal logées. L'offre s'est rétrécie de moitié. On voit que la primo-accession est repartie parce qu'on a remarqué avec Bérénice justement et la rédaction que l'acquisition des porteurs de projets, c'est ceux qui voulaient aller sur le marché locatif et qui se saignent à blanc pour essayer d'acquérir à la propriété, d'aller à la propriété parce qu'ils n'arrivaient plus à se loger. Plutôt positif, certes, plutôt positif. Mais il n'y a pas d'équilibre au niveau de la location et l'immobilier est devenu un produit un produit de luxe.
Ah ben, c'est effectivement... C'est
première charge
déploie.
Contrainte, l'INSEE a démontré qu'aujourd'hui,
oui,
c'est payer son loyer
ou manger.
Tout le monde
devrait pouvoir devenir propriétaire.
Et en plus, c'est une garantie même pour la retraite. Entre
bien
guillemets,
sûr.
Quelqu'un qui n'a plus de loyer à payer à terme, c'est du gain malgré tout dans son pouvoir d'achat en tant que retraité.
Anaïs, en tout cas, on est d'accord. Je sais que vous êtes d'accord. J'espère que les députés le sont aussi. Il faut construire plus. C'est ça la vraie solution.
La
il
solution,
faut plus
c'est
de
plus
logements.
D'offres. Plus d'offres, j'aurais pas besoin d'encadrement des loyers. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Vous maintenez l'idée d'encadrement des loyers dans votre rapport, vous revenez pas dessus.
Alors,
vous n'êtes pas
moi,
dit d'accord que j'ai
dans,
un peu loin.
Dans le rapport, on est quand même assez... moi, j'ai accompagné, j'avoue, sur ce rapport-là. Ce que je disais, je n'étais pas une experte dans l'encadrement des loyers au départ. Mmh. Ce que j'ai vu, c'est que le dispositif actuel n'était pas non plus garanti comme étant un dispositif forcément très bien construit. Donc, il y avait des choses à adapter. Si, dans l'idée qu'on gardait l'encadrement, au-delà de l'idée de se dire est-ce qu'on pérennise, qu'on continue ou pas le dispositif, le dispositif, il fallait de toute façon le retravailler. Donc c'était plutôt le travail que nous avons fait parce qu'on n'avait pas le retour des études. Donc du coup, c'est...
Mais là, regardez l'étude européenne. Vraiment, elle est hyper intéressante. Ouais. C'est parce qu'en plus, c'est une vision un peu plus grande.
Les Allemands reviennent sur la question. Oui,
donc l'objectif d'abord de ce rapport était déjà dans un premier temps de se dire... On a un outil qui va peut-être être reconduit, on ne peut pas le laisser en l'état.
Le problème des rapports faits par le gouvernement, ce n'est pas toujours très poussé, quoi.
On attend surtout. Nous, quand on les a auditionnés, on n'avait rien. Donc,
oui. Mais c'est pas toujours, on l'a vu.
Il devait être remis en octobre, il n'a pas été remis en octobre. On nous dit qu'il sera remis en mai. Donc la question de se dire, est-ce qu'il faut légiférer maintenant dans l'urgence, la question se pose réellement. Étant donné qu'on n'a pas les données économiques.
Donc la prochaine étape, c'est quoi pour nos auditeurs?
La prochaine étape, on a la proposition de loi donc, qui va passer à l'Assemblée nationale jeudi prochain. Mmh. Donc on verra bien comment ça se passe, parce qu'il y a des amendements aussi qui proposent simplement de dire, écoutez, c'est trop tôt de légiférer, on va attendre et on va laisser le dispositif comme tel pendant 2 ans. C'est notamment un amendement de la ministre Létard, donc qui est revenu sur nos bancs à l'Assemblée nationale, qui est peut-être une solution un peu d'attente qui permet de dire on va attendre d'avoir d'autres études justement pour réellement voir l'impact de l'encadrement des loyers, étant donné que c'est très difficile dans ces pluries en fait factoriel, vous l'avez bien dit, c'est-à-dire qu'il y a un problème aussi de la charge financière, d'augmentation des charges de crédit, etc. Enfin voilà, on peut pas comment isoler en fait le fait même de l'encadrement des loyers dans l'augmentation globale du coût du logement en France. C'est une première idée, c'est de se dire on laisse un peu de temps et autrement ça sera soumis à vote à l'Assemblée et après il y aura la navette.
Donc,
parlementaire. L'objectif de Dignaki et Tchaniz était d'avoir une proposition qui soit bâtie avant novembre 2026. Voilà, donc en soi, on a encore un petit peu de temps pour débattre tous ensemble entre le temps.
Et moi, j'avais une question un peu personnelle. Est-ce qu'il est propriétaire, député Chaniz? J'aimerais bien savoir. Parce que c'est intéressant, parce que chacun prêche pour sa paroisse, en fait.
Non, mais alors, moi, j'adore Bérénice. C'est la question qui tue. Mais elle a raison.
Bien sûr. Est-ce qu'il est propriétaire?
Elle a raison. J'ai pris, moi, 40% d'augmentation sur ma taxe foncière cette année. Combien vous avez pris, Bérénice, cette année?
Ah, moi, j'ai pris... j'habite à Paris, donc j'ai pris full...
Vous avez pris le maximum.
Ah,
à un moment donné... vous voulez que je vous dise... je plaisante un peu, mais... On se demande s'il n'y a pas une volonté kolkhozienne de Renaissance et du parti dans l'idée de finalement se dire c'est le kolkhoz fleuri à Paris... dans les grandes métropoles avec cette idée d'encadrement des loyers, parce que quand on voit les chiffres, et c'est pas drôle du tout hein, mais vous les connaissez déjà, moi j'ai pas l'impression que vous soyez complètement à l'aise avec ça, vous voyez.
Déjà sur la situation parisienne, on a des différences politiques avec la politique menée à la ville de Paris. Je veux dire, honnêtement, sur le logement, ils ont une volonté quand même d'acquisition de l'ensemble des biens
On va parler social. De Quimper. Est-ce que vous êtes d'accord de parler de Quimper?
On peut parler de Quimper,
okay.
Allez.
Augmentation de la hausse de la taxe foncière cette année à Quimper.
Oui.
Combien?
Alors, je ne sais même plus le chiffre. Mais je suis propriétaire pour répondre à Bérénice.
Alors, on est sur les moyennes nationales. Ouais. On est sur des augmentations qui vont de 10 à 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des communes aujourd'hui qui n'ont plus le choix. Et je voulais que je vous dise...
Parce qu'il y a eu la suppression de la taxe d'habitation, il faut le rappeler aussi.
Avec Bérénice, on fait beaucoup d'émissions. Beaucoup de d'émissions autour.
On
reçoit les maires. Nous n'avons pas de maires qui nous disent aujourd'hui, j'ai d'autres moyens que d'augmenter la taxe foncière.
Bah oui.
Parce que je n'ai plus de relais.
Et le problème qu'on
même
a...
Même les maires le disent.
Non, mais ce qu'on a, c'est que la taxe foncière et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont liées. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires comme ça a été prévu, eh ben, du coup, ça fait monter obligatoirement la taxe foncière. Donc, il y a un amendement aussi qui demande de délier les deux parce que artificiellement les deux augmentent alors qu'on ne veut pas forcément taxer plus des propriétaires qui habitent sur nos territoires et qui vivent sur nos territoires. Quand les maires ont décidé d'augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, eh ben, indirectement, ça a fait aussi monter la taxe foncière, ce qui n'est pas juste.
Mais ce n'est pas juste aussi que les locataires ne payent plus de taxes d'habitation. Et vous savez, moi, au Salon des maires, j'ai discuté avec des maires et avec des bailleurs sociaux qui m'ont expliqué que la taxe d'habitation, ça a un effet indirect. Certains maires refusent des projets de logements sociaux parce qu'ils se disent « on ne va pas avoir de taxe d'habitation ». Parce que c'est du logement social. Et donc, en revanche, nous, on a des coûts derrière. Il faut qu'on ouvre des crèches.
Ça, c'est le sujet.
Ils refusent des logements sociaux à cause de cette suppression de taxe d'habitation. Ils m'ont dit vraiment texto.
Ah, mais moi, je
donc,
vous
l'affirme. Donc, un effet indirect, la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation, c'est une hérésie, vraiment.
On va devoir...
quitter. Mais c'est un sujet passionnant.
Oui, non, mais on aimerait bien... Moi, franchement, j'aimerais bien faire qu'on fasse une demi-heure de plus, mais bon, c'est vrai que vous sentez un peu seul, là, du coup.
Oui, c'est pas juste, on est deux.
Non, parce qu'il
faudrait inviter Chanise.
En plus, voilà, ce que j'allais dire, je suis pas non plus la plus virulente sur ce sujet-là. Je suis quand même un peu observatrice aussi de ce qui se passe.
Moi, je pense que vous n'êtes pas totalement à l'aise avec le rapport, parce que je vous connais bien. Et donc, parce que moi, quand Anaïs Glomer est virulente, il suffit de se connecter à l'Assemblée, je peux vous dire qu'on le sent passer. Donc, moi, ce que j'aimerais entendre, je sais, vous ne le direz pas.
Revenez à la raison, Anaïs, s'il vous plaît.
J'aurais adoré vous entendre en disant, vous savez quoi, ce rapport, c'est une connerie.
Non, le rapport, il fallait le faire. C'est intéressant.
Parce oui, mais que
la question, elle est exposée de toute façon. La question, elle est exposée, donc il fallait bien poser la question.
Allez, on doit rendre l'antenne.
Ne nous reprochez pas de travailler quand même.
Faisons de la politique.
Non. Bon, merci beaucoup, madame la députée. En tout cas, merci de jouer le jeu à chaque fois, de venir sur notre plateau. Ouais. Parce qu'il faut le dire, au moins, madame la députée vient sur le plateau. Ce n'est pas le cas de tous les députés.
Et il y a une chose qu'on peut dire d'Anaïs Glomer, c'est que non seulement elle n'élude aucune question, elle y répond frontalement. Voilà, et on
c'est pour ça qu'on vous apprécie.
Toute la démarche, et vous êtes toujours très
appréciée. Vous essayez de vous rattraper.
Non. Faut le dire. Vous êtes engagée. On n'est pas d'accord, mais vous êtes engagée. Merci beaucoup, madame la députée. Merci, Sylvain Lévy-Valency. On se retrouve dans quelques instants avec une table ronde Idées Pro en direct du CIMI. C'est tout de suite sur Radio Immo.
Le CIMI, du 9 au 11 décembre 2025, à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Salvia Développement, Solare IT, Procivis, Inly, Axéo et IDPRO sur Radio Immo et Radio Territoria.